Le collège de Kuta.
Des interviews, des actus,
de la musique,
des sciences,
des reportages.
Vous écoutez On te choque.
C'est Lucien. Vous êtes sur Honte de choc. Attention, pas une vraie honte de choc, l'émission.
Moi c'était, c'est j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui c'est une émission spéciale enregistrée en direct dans le studio de Radio Escapade à Saint-Hippolyte-du-Fort. Vous savez comment on est venu?
Vous pensez que nous sommes venus en bus? Eh bien non, vous trompez. Car nous, on est venus en vélo. Eh oui, on fait attention à l'écologie, nous.
Bon, reprenons.
Aujourd'hui, pour notre dernière émission, nous allons vous présenter quelques sujets, comme toujours. Tout d'abord, Guillaume nous parlera du seul, l'unique, l'immensissime, splendide Renault. Ça en fait peut-être un peu trop.
Ensuite, Léna nous racontera l'euro féminin.
Iban et moi, nous vous présenterons l'intelligence artificielle avec tous ses risques et tout ce qui est bien. Après, Louis et Augustin vont enchaîner avec un sujet sur les jeux vidéo très tendance en ce moment, FNAF.
Inès, Clémence et Louane nous informeront sur les Jeux Olympiques qui arrivent à grands pas. Émile nous expliquera le voyage en Espagne organisé au mois d'avril par les professeurs d'espagnol.
Et enfin, on finira cette émission avec Paolo et Athénaïs qui nous parleront de leur aventure au collège, plus précisément du passé, du présent et du futur.
Maintenant, nous allons passer le micro à Guillaume.
C'est le 11 mai 1952 que Renaud Pierre-Manuel Séchant, dit Renaud, parcours quoi, voit le jour 10 minutes après son frère David. Tout d'abord, qui est Renaud? Parce que là, j'étais peut-être un peu brusque. Parce que oui, il existe des gens qui ne connaissent pas la réponse à la question et qui continuent à faire la blague surfaite avec la marque de bagnole. Renaud, donc, est une des principales figures de la chanson française et du rock français. Mais Renaud est d'abord un chanteur engagé, non, par exemple dans l'anarchie, dans l'écologie, dans les droits de l'homme et surtout à gauche. J'oublie de dire que Renaud est un ancien 68ard, un ardent pacifiste, comme on peut l'entendre dans La Ballade du Nord-Irlandaise, et Manhattan Kaboul, et un antimilitariste, qu'on peut l'entendre dans Déserteur, Trois Matelots et La Médaille. Il s'en prend de la même manière à la police, comme dans Hexagone, où c'est que j'ai mis mon flingue. Il privilégie la fraternité humaine et se dit opposé à l'idée de frontières. Bon, à part ça, Renaud débute sa carrière de chanteur en 1968 en participant à la création du groupe Gavroche, qui ne fait guère des mules, mais c'est dans ce groupe qu'il écrit sa première chanson, Crève Salope. C'est le titre de la chanson. Puis, en 1971, il rencontre Patrick Devers dans une soirée en vacances à Belle-Île-en-Mer. Ce dernier le fait entrer comme comédien au Café de la Gare à Paris, pour remplacer un acteur au parti aux États-Unis. Pendant quelques mois, il joue avec Miu Miu, une actrice française, et Romain Bouteille, un auteur de théâtre humoriste anarchiste, Henri Guibé, un comédien de café, Coluche, ce serait que vous insulter que de vous expliquer qui c'est, Sota, une française qui vient un peu tout dans le théâtre, pardon. Et bien sûr, Patrick Devers, qui est acteur, notamment dans la chanson Robin des Quois, écrite par Romain Bouteille. Il rend finalement sa place à l'acteur à son retour. En 1974, quelques minutes avant le tout premier spectacle de Coluche au nouveau café de la gare, rue du Temple, redevinez un peu ce qui va se passer. Eh ben, Renaud, Michel et Bénédicte Coulter, c'est leur guitariste, décident là comme ça, sur un coup de tête, de faire un concert plus ou moins improvisé dans la cour pour la file d'attente, c'est-à-dire 500 personnes. Et énorme coup de bol, ça passe, et en plus, ils se font remarquer par Paul Lederman, c'est le producteur de Coluche, et il leur propose de venir jouer au Cafconc, c'est un resto à Paris, en première partie du théâtre de Coluche. Les trois artistes acceptent, et leur groupe est appelé les Petits Loulous. Les Petits Loulous étaient engagés pour 3 mois, mais le groupe ne durera que 3 semaines, car Michel avait oublié de dire qu'il devrait bientôt partir pour son service militaire. Paul Lederman encourage Renaud à continuer seul en chantant ses propres chansons, par exemple Hexagone ou Camarades Bourgeois. Un soir de 1975, deux producteurs, François Berhem et Jacqueline Ernst-Mitsch, avec bien sûr un super accent allemand, l'entendent et lui proposent de faire un disque. Renaud, qui avait déjà refusé une proposition de Paul Lederman parce qu'il souhaite toujours faire acteur, est peu enthousiasmé, mais accepte tout de même. Sûrement parce qu'il sent qu'on va continuer longtemps à lui demander s'il continue à refuser. Son premier 33 tours, Amoureux de Paname, sort le 3 avril 1975. La chanson Hexagone, dans laquelle il accuse la France de fascisme, on le comprend, la gangrène qui sévit à Santiago comme à Paris, allusion au régime de Pinochet, est interdite d'antenne sur France Inter pendant la visite du pape en France. S'en suivent quelques concerts en province où le chanteur est très demandé à la suite d'Amoureux de Paname et où il rôde certaines des chansons, qui comprendront l'album suivant. Et ainsi de suite. Finalement, c'est bien vers la musique que Renaud se tournera finalement. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué pour lui car il est victime de troubles vasomoteurs. C'est des contractions des vaisseaux sanguins. Et aujourd'hui, donc, il est incapable de chanter sur scène. Par contre, les disques, aucun problème. Mais il continue quand même les concerts pour une raison donnée par Christophe Mourtet, ami intime de Renaud, sur le plateau télévisé de Touche pas à mon poste. Être sur scène, c'est sa vie, et si on lui enlève la scène, ce gars-là, il meurt. Christophe Mourtet affirme aussi également que Renaud va beaucoup mieux depuis sa dernière période d'alcoolisme et qu'il a arrêté la boisson. Et ce ne sera pas tout pour aujourd'hui, car je tiens à faire une parenthèse sur un événement qui m'a littéralement outré. Guillaume Meurice s'est fait virer de France Inter parce qu'il a fait une blague sur Netanyahu. Il l'a traité de nazi sans prépuce. C'est une grave atteinte à la liberté d'expression de la part de la PDG de France Inter. Et de plus, un autre humoriste, Jamie Le Schlag, a annoncé en direct qu'il démissionnait en soutien à Guillaume Meurice. C'était ma dernière chronique, a-t-il annoncé sous les applaudissements du public. Shine Van Honecker l'a salué un peu plus tard dans l'émission. D'ailleurs, le grand dimanche soir du 5 mai a été une émission spéciale en soutien à Guillaume Meurice. Tous les autres humoristes de France Inter se sont mobilisés notamment pour insulter la direction de Radio France, comme Émeric Lompré qui a littéralement expliqué la blague de Guillaume à la direction. Rappel, le grand dimanche soir, c'est en direct. Actuellement, l'équipe du grand dimanche soir est en grève en soutien à Guillaume Meurice. Au fait, bientôt c'est les élections, alors je compte sur vous pour pas faire les cons, hein. Votez pas pour l'extrême droite, c'est un parti fasciste. Ce serait dommage que la France devienne le trou du cul de l'OTAN. Si elle en fait encore partie, je vous rappelle que si c'est plus le cas, on se prend une bombe atomique dans le coin de la gueule. Donc, votez pour la gauche, merci, c'était sympa. Bon, moi aussi c'était ma dernière émission, l'année prochaine on se retrouvera peut-être sur Radio Sommière. Allez, c'est ciao.
Et maintenant nous allons passer la célèbre musique, une célèbre chanson de Renaud. Ma chanson l'aura pas plu, elle fait partie des chansons préférées de Guillaume d'ailleurs.
J'avais écrit une chanson, un vrai tube, un truc en or, avec des paroles en béton, une musique le genre Milord. C'était pas vraiment mon style, je me suis dit, je vais la placer. Ça devrait pas être difficile, y'a de la demande dans ce métier. Yeah, yeah. J'ai rencontré Capdevielle au bar de l'Apocalypse. Je lui ai dit, écoute ma vieille, ça s'appelle le Cataclypse. Ça raconte l'histoire d'un ange qui est marchand de certitude et qui poignarde dans ce ciel étrange le fantôme des solitudes. Il est pote avec Mary, la vestiaire du crépuscule, où tous les gardiens de la nuit viennent jouer les funambules. Voilà ma chanson, mon pote, si t'en veux pas, pas de malaise, je la remets dans ma culotte, mais tu sais pas ce que tu perds. Ma chanson lui a pas plu, n'en parlons plus. J'ai écrit une autre chanson, un truc encore plus super, avec des paroles en béton, avec une musique d'enfer. Mais elle correspondait pas trop à mon image, mon créneau, un peu comme si Dalida chantait Biba Peloula. La la la. J'ai rencontré Lavillier un soir à Geoffroy Guichard dans l'enfer vert immaculé. Je lui ai raconté mon histoire. La chanson se passe à New York. Y'a Jimmy qui se fait flinguer par un black au coin d'un bloc, par un flic très singulier. Il était pas vraiment mort, il était blessé seulement. Jimmy, il est vachement fort, il est dealer et on le dit lent. Voilà ma chanson, mon pote, si t'en veux pas, pas de problème, je la remets dans ma culotte. Allez va, dis-moi tu l'aimes. Ma chanson lui a pas plu, n'en parlons plus. De rime. J'ai travaillé très très tard, j'ai fait une chanson sublime. J'ai chanté à deux trois potes, ils m'ont dit c'est pas pour toi, sûr que ta chanson nous botte, mais un conseil, oublie-la, la la la. Alors j'ai rencontré Cabrel, assis au bord de l'autoroute. Je lui ai dit ma chanson s'appelle Sur le chemin de la route. Et c'est l'histoire d'une nonne, amoureuse d'un caillou. Dans sa vie y'a plus personne que les marchands et les fous. Elle veut retrouver sa terre et ses chèvres et ses brebis, fuir le doute et la poussière et revoir sa Normandie. Voilà ma chanson, mon pote, si t'en veux pas, pas de lézard, je la remets dans ma culotte ou au pire dans ma guitare. Ma chanson lui a pas plu, n'en parlons plus. Alors Alors je me suis dit, basta, je fais plus que des chansons pour moi. Je m'en suis écrit une aussi sec, qui raconte l'histoire d'un mec amoureux de sa mobilette. Mais leur amour est impossible, elle a une clé à molette, qui est une jalousie terrible, horrible. À la fin, le mec y meurt en mangeant une canette de bière. La mobilette se suicide en se faisant couler du miel. La clé à molette finit en tôle, elle qui se croyait en acier. Et c'est sur cette fin pas drôle que se termine ma chanson paillée. Et si elle vous a pas plu, vous savez où je me la mets. De toute façon, elle sera pas foutue, elle sera au chaud, bien logée. Parce que maintenant, ma culotte, je vais te dire, c'est un vrai jukebox. Tu mets 10 balles, t'as 4 chansons, t'en as même une, qu'elles sont longues.
Maintenant, nous allons laisser la parole à Léna qui va nous expliquer un sujet très intéressant sur l'euro féminin.
Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler du foot féminin. Je vais commencer par vous parler de la Coupe du Monde féminine 2023 qui a eu lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il y avait 32 équipes, c'est l'Espagne qui a remporté la Coupe du Monde féminine. Les équipes qui ont été qualifiées pour les demi-finales sont la Suède qui a joué contre l'Espagne et l'Australie qui a joué contre l'Angleterre. Ces Coupes du Monde ont lieu tous les 4 ans, l'Espagne et les États-Unis et l'Allemagne sont les équipes qui dominent le foot féminin depuis plusieurs années. Au niveau européen, une coupe a eu lieu aussi tous les 4 ans, la dernière en 2022, et elle a vu la victoire de l'Angleterre. Je vous parle aussi de l'Allemagne qui a eu 8 victoires de 1991 à 2013. La prochaine coupe d'Europe se jouera en 2025, qui se jouera en Suisse. Maintenant, je vais vous parler de l'équipe de France féminine, dont la capitaine est Wendy Renard et leur entraîneur Hervé Renard. Ils n'ont aucun lien de parenté. Elles sont 23 au total et ont été en finale dans la Ligue des Nations en 2024. Maintenant, je vais vous parler de l'équipe de foot féminine de Quissac, dont je fais partie. Je joue au poste du milieu central et nous sommes 12 dans notre équipe. Il y a Inès, Fifi, Manel, Lola, Chloé, Anaë, Eléa, Alizé, Cheriane, Olivia, Noëlla et moi. Notre entraîneur est Carpini Joachim. Nous avons déjà été championne du Gard 2023. On a gagné la coupe, évidemment. Chers auditeurs, je vous invite à regarder et à écouter et vous passionner pour le foot féminin. Nous ne jouons plus collectif et nous sommes de bonnes techniciennes. Parole de journaliste sportif et spécialiste. Voilà, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.
Merci Léna pour ce super sujet. À présent, Iban et moi, nous allons vous parler des intelligences artificielles, ou IA pour ceux qui préfèrent.
Bonjour à tous et à tous, je suis Iban.
Et moi, c'est Lucien. On va vous parler des intelligences artificielles, ou IA, comme je l'ai dit tout à l'heure.
On va vous parler des IA les plus pratiques.
L'IA la plus connue est Midjourney. Elle, si vous ne la connaissez pas, c'est une IA générative qui permet de créer une image à partir de texte, même si je suis sûre que vous la connaissez.
Elle est considérée comme la meilleure IA texte ou image ou texte en image en français.
ChatGPT aussi est très connu car c'est la meilleure pour la génération de texte, croyez-moi.
Ampère Musique est la meilleure pour générer des musiques.
Et Google Translate pour traduire une langue. Ça dépend des personnes après. On tient à dire que c'est ce que trouvent la plupart des gens après. Il y a des personnes qui ont des autres préférences.
L'IA, c'est une bonne ou une mauvaise chose?
L'IA, c'est très pratique. Pour faire ses devoirs ou pour augmenter la productivité d'une entreprise en automatisant les tâches anciennement faites par des êtres vivants.
Et ce serait bien pour se créer de nouveaux fonds d'écran.
Ah ouais, mais c'est pas...
L'IA peut être utilisée pour l'apprentissage. Par exemple, l'école Guyenne de Rennes utilise les IA au service des élèves de grande section qui utilisent pour apprendre à écrire.
Mais c'est pas toujours très bien une IA. Certaines sont créées pour pirater des entreprises. Elles peuvent aussi remplacer des métiers. On va aussi vous parler des exploits des IA. Parce que oui, ça le fait.
En 1997, le supercalculateur conçu par IBM, Deep Blue, bat Garry Kasparov 3-5-2-5 et marque un tournant. Pour la première fois, le meilleur joueur humain du jeu d'échecs est battu par une machine.
Une intelligence artificielle développée par Google a réussi à apprendre une langue étrangère sans intervention humaine. Le plus inquiétant et le plus surprenant est que les scientifiques eux-mêmes ne savent pas comment l'IA a fait. J'ai peur de finir en Terminator.
On va maintenant vous parler des dangers des IA. Certaines IA sont créées pour créer des explosifs ou optimiser des attaques.
Mais heureusement, d'autres IA sont créées pour éviter les attaques.
Certaines IA sont créées pour pirater et divulguer des données privées.
Ouais, bon.
C'est la dernière émission de l'année, donc bonnes vacances!
Allez, à l'année prochaine!
À présent, nous allons laisser la parole à Augustin et Louis qui nous présenteront un sujet sur FNAF.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, je m'appelle Augustin et je suis accompagné de lui, Louis. Et nous allons vous parler de Five Nights at Freddy's. FNAF est un jeu indépendant de type survival horror développé par Scott Cawthon. Le jeu a débuté en 2014 et compte maintenant 6 jeux plus plusieurs fangames. La série compte également 4 spin-offs et a été adaptée en plusieurs romans.
Le but des 3 premiers jeux principaux est de survivre 6 nuits dans un pizzaplex. Depuis une salle de contrôle, le joueur doit surveiller avec des caméras, des animatronics, qui cherchent à rentrer dans la pièce où se situe le joueur. Bien que ce dernier ait accès aux caméras, aux portes et aux lumières du bâtiment, il ne pourra pas les activer simultanément, il devra le faire en alternance. Il y a aussi une quantité de batterie à respecter, ou sinon, il y a une coupure de courant. Il s'agit donc d'un jeu de gestion stressant, amplifié par une ambiance horrifique.
Five Nights at Freddy's 4. Le style de Five Nights at Freddy's 4 est différent de celui des 3 premiers opus, puisqu'il se passe à l'intérieur d'une chambre d'enfant. Le gameplay et des phases impliquent d'augmenter le volume sonore pour entendre des bruits suspects, permettant aux joueurs d'empêcher les animatronics du premier jeu sous leur forme cauchemardesque de terminer la partie. Après avoir terminé une nuit, un mini-jeu nommé Fun Witch Punch Plus Trap est proposé aux joueurs pour tenter de gagner 2 heures de moins sur la nuit suivante. Le personnage principal serait mort à cause de son frère qui aurait mis sa tête dans la mâchoire de Freddy. Et après environ 5 secondes, Freddy aurait, d'un grand coup, fermé sa mâchoire. Et l'enfant n'aurait pas survécu. En regardant le lit de l'enfant, en fonction des nuits, on peut y voir des fleurs, une seringue, des médicaments et une poche intraveineuse. À la fin de la 6e nuit, le petit garçon meurt. On peut alors voir un texte où son frère lui dit « Peux-tu m'entendre ?» « Je ne sais pas si tu peux m'entendre, je suis désolé. » Puis un texte d'une autre couleur apparaît. « Tu es cassé, nous sommes restés tes amis. Tu y crois toujours ? Je vais nous réunir à nouveau. »
Five Nights at Freddy's Sister Location. Le jeu se passe dans un endroit qui semble être souterrain, nommé le Circus Baby Entraînement and Haunted. Le joueur incarne un gardien de nuit chargé de programmer les animatroniques afin qu'ils fonctionnent parfaitement pour la journée suivante. Plusieurs tâches doivent être accomplies chaque nuit, ce qui rend le gameplay de chaque phase différent. 2 fins peuvent être atteintes par le joueur. L'une se termine comme étant la vraie fin du jeu, et l'autre implique de survivre à l'intérieur d'une pièce cachée, en compagnie d'un animatronique particulier nommé Enard.
Five Nights at Freddy's Security Breach. En le comparant à ses prédécesseurs, on remarque qu'il propose un gameplay entièrement différent des autres jeux, qui se résumait à des jeux point and click, où il fallait rester dans un bureau et surveiller les animatronics. Ainsi, Security Breach introduit le fait de pouvoir se déplacer librement dans le bâtiment. Il n'est plus question de survivre 5 nuits, mais de faire des missions tout au long d'une seule nuit, en survivant aux animatronics et en essayant de s'échapper du Mega Pizza Place. Le joueur incarne le personnage d'un garçon nommé Gregory, qui va au fur et à mesure découvrir ce qu'il se passe dans le Mega Pizza Place. Merci de m'avoir écouté, ceci était ma dernière émission, et peut-être qu'on se reverra l'année prochaine.
Merci d'avoir écouté notre sujet, et au revoir.
Voilà, et maintenant nous allons écouter la musique de Soprano, le coach.
Abdo, dips, pompe, barre. Abdo, dips, pompe, barre. Enchaînez les squats, enchaînez les squats, enchaînez les squats, squat, squat. Abdo, dips, pompe, barre. Abdo, dips, pompe, barre. Frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac, sac, sac. Allez, va chercher le chrono. Va chercher le chrono. Tous ensemble à la ligne d'arrivée. Tous ensemble à la ligne d'arrivée. On va taper dans le cardio. On va taper dans le cardio. On va viser dans le coche. Tu vas savoir qui est coach.
Faut taper le cardio pour mieux endurer. Faut taper les abdos pour mieux encaisser. La vie c'est musclé.
Secondes de récup et on repart.
Vous suivez peut-être en ce moment le trajet de la flamme olympique. Nous sommes ici passionnés par cet événement mondial qui se déroulera à Paris dans quelques semaines. Nous écoutons Clémence, Inès et Eloën.
Bonjour très chères auditrices et auditeurs, aujourd'hui on va vous présenter notre sujet, les Jeux Olympiques. Je suis accompagnée de Clémence,
coucou,
d'Eloën et moi-même Inès. On commence par...
Qui a créé les Jeux Olympiques ?
Les Romains sont les véritables inventeurs des Jeux Olympiques. En effet, ce sont les premiers à avoir pratiqué cette tradition. C'est le baron Pierre de Coubertin qui a décidé de relancer ce projet.
Que veulent dire les 5 anneaux représentés sur le drapeau ?
Les 5 anneaux représentent les 5 continents unis par l'olympisme, car aussi... Quant aux 6 couleurs, en incluant le blanc en arrière-plan, elles représentent toutes les nations. Car chacune de ces couleurs était représentée dans le drapeau de chaque pays lors de la création du drapeau.
Quand les Jeux Olympiques débutent pour la première fois ?
C'est en 1896 que les Jeux Olympiques d'été débutent pour la première fois à Athènes. Les Jeux Olympiques d'hiver, eux, débutent en 1924 en France.
Qui fut le premier champion de l'ère moderne ?
C'est James Connolly qui a gagné les 43 épreuves et qui est devenu le premier champion olympique.
Information sur les Jeux Olympiques 2024. Ils débuteront le 26 juillet, finiront le dimanche 11 août. Ils dureront donc 16 jours où Paris sera le centre du monde.
Il y a beaucoup de disciplines. Athlétisme, aviron, badminton, basket, boxe, breakdance, canoë kayak, course en ligne, équitation, escrime, football. Il y a même des courses de trampoline.
Il y a beaucoup de disciplines. Maintenant, intéressons-nous un peu à la flamme olympique. La première torche du relais de la flamme olympique de Paris 2024 a été allumée le 16 avril 2024 selon la tradition antique à l'aide des rayons du soleil lors d'une cérémonie dans le sanctuaire d'Olympie où se déroulaient les Jeux antiques.
De la Péloponnèse, la flamme olympique rejoindra Athènes pour embarquer à bord du célèbre voilier, le Bélème, pour ensuite traverser la mer Méditerranée. C'est le 8 mai 2024 à Marseille que la flamme olympique débutera son épopée en France.
Lors du passage de la flamme à Perpignan, une femme de Villesèque, un village à côté d'une autre, va porter la flamme. Elle s'appelle Béatrice Radovisi, étudiante sportive de haut niveau, la classe.
Mais au fait, qui a allumé la flamme ?
C'est Laure Manaudou qui a eu le privilège d'allumer la flamme olympique, ancienne championne de natation dans les années 2000.
Nous avons choisi ce sujet car il y avait beaucoup de questions et que nous sommes toutes des fans des jeux, de la tradition, des athlètes, des disciplines.
On espère que cette année vous aura plu. Merci à tous ceux qui nous ont suivis durant tout ce temps. Au revoir.
Merci les filles. À présent, nous écoutons le sujet d'Emile sur le voyage en Espagne auquel il a participé avec d'autres élèves et dont il se souviendra encore pendant longtemps.
Avant de commencer à parler du voyage... Je dois vous dire que c'est ma dernière émission. Et oui, c'est ma dernière émission dans ce collège. Et dans cet atelier radio, vous me manquerez beaucoup, tous. Du coup, profitons-en et parlons du voyage. Entre le 1er et le 5 avril 2024 a eu lieu un voyage scolaire en Espagne. Au total, 58 élèves de 3e du collège de Cuta accompagnés des 4 professeurs. Les 4 professeurs dont deux professeurs d'espagnol et Madame Rouvière ont fait un voyage. Nous avons visité 3 villes, Valence, Barcelone et Tarragone. Cela concernait tous les troisièmes choisis du collège de Kuta qui ont choisi l'espagnol comme seconde langue. Après l'anglais, quelques élèves qui sont en espagnol bilingue ont aussi été choisis avant de commencer à parler du voyage. Je vous rappelle que l'année dernière, il y avait eu aussi un voyage en Espagne pour les bilingues. Augustin avait déjà fait une chronique l'année dernière. Du coup, commençons. Le départ a eu lieu le 1er avril à 6h45 au collège, direction l'Espagne. Après 12 heures de trajet et plusieurs arrêts, nous arrivons à Barcelone, où nous visitons le Pueblo espagnol, où l'on présente les différentes régions espagnoles. Nous avons visité le lieu où les Jeux Olympiques ont eu lieu à Barcelone en 1992. Puis nous sommes allés à Valence, où nos familles d'accueil qui nous hébergent nous attendaient. Le lendemain, nous avons visité une orangerie. Puis nous sommes allés visiter le lac de l'Albufera en barque. Le lendemain matin, nous avons visité le centre-ville de Valence. Nous avons visité le Grand Marché de Valence et nous avons visité le parc Gulliver. Et en fin de journée, nous avons contribué à un atelier paella où nous avons pu déguster la paella. Le lendemain, nous avons visité la Cité des Sciences où nous avons visité aussi le musée. Et l'après-midi, nous avons visité l'hémisphérique de Valence avec un spectacle de dauphins. Et en fin d'après-midi, nous avons visité le musée de la fête de Las Fallas avec toutes les marionnettes qui ont été gardés au fil des années. Le lendemain, c'est le grand départ. Arrêt à Tarragone pour une visite de la ville. Nous avons à 21h à Quissac. Et c'est là où le voyage s'arrêta. Cela a été ma dernière émission en tant que collégien. Vous me manquerez beaucoup. Même cet atelier radio me manquera. Beaucoup, d'ailleurs. Alors, retrouvons-moi sur Radio Sommaire l'année prochaine pour la radio du lycée de Sommières. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant ces 2 années.
Et pour rester dans le thème, nous écoutons Despacito que tout le monde connaît.
Aïe.
Fancy.
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu
pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Enseñas a mi boca tus lugares favoritos,
favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Nous avons décidé de clore cette émission avec deux de nos plus anciens élèves du Club Radio, Paolo et Athénaïs, présents depuis le début de cette aventure. À quelques semaines de quitter le collège, ils ont décidé de nous faire un point sur leurs souvenirs qui sont bons, mais aussi les moins bons. Et les très moins bons aussi.
Bonjour, bonjour tout le monde. L'émission que vous écoutez est ma dernière de l'année, mais aussi la dernière de ma vie au collège, avant de passer le micro à mon acolyte du Club Radio, sans lui, je ne saurais passer à côté de ce club incroyable. Je vais vous faire part de ma réflexion. Cette fameuse réflexion, c'est que il nous reste un mois au collège et que dans 3 mois, nous sommes lycéens et lycéennes.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Vous entendez aussi ma dernière mission, donc, de ma vie au collège. En effet, la réflexion d'Athénaïs, je l'avais déjà faite et celle-ci me rend assez nostalgique et me donne envie de redoubler.
Alors aujourd'hui, je vais vous raconter ma rentrée en 6e. Bon, elle est très courte. Je suis rentrée au collège et j'ai vu des filles qui par la suite sont devenues mes meilleures amies. Mais un jour, elles ont décidé pendant l'été entre 4e et 3e, donc l'été dernier, de ne plus me parler.
Je me souviens qu'à l'époque, quelques jours avant la rentrée, on recevait un mail pour nous informer de notre emploi du temps et de notre classe. Le jour de la rentrée, comme mon professeur principal a fait l'appel pour les élèves dans les gradins de la cour devant tout le monde, il m'avait oublié. Oh, le stress. Heureusement, c'est ma mère qui allait le voir et grâce à ça, j'ai pu suivre les autres élèves de ma classe. J'étais en 6e B.
En cours, je n'ai pas vraiment de difficultés, mais toutes mes difficultés, je les ai rencontrées en amitié. En effet, comme je vous l'ai dit juste avant, je me suis fait trahir par mes anciennes amies cet été, et encore aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'une de mes soi-disant meilleures amies faisait l'hypocrite et parlait dans mon dos. Donc je ne lui parle plus, mais du coup, je ne la vois plus l'année prochaine au lycée vu qu'elle ne va pas dans le même que moi. Et aussi avec ma meilleure amie qui n'était pas dans le collège, dans le même collège que moi pendant 4 ans, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'elle voulait juste qu'on reste potes et qu'on se dise bonjour de loin. Cela m'a rendu extrêmement triste. Heureusement que ma sœur était là pour me remonter le moral à 2h du matin et m'a dit qu'il ne fallait pas que je m'inquiète et que j'allais me faire de nouveaux amis.
Durant les années de 6e et de 5e, je ne levais jamais la main en cours pour participer. Les professeurs étaient obligés de m'interroger pour que j'ose prendre la parole devant tout le monde. Mais après un drame amical que je vais vous raconter juste après, j'ai pris confiance en moi et en mes capacités. Du coup, à partir de ma 4e, je me suis mis à lever la main plus souvent. Alors, mon drame amical, je ne vais pas tout vous raconter, mais j'ai vécu du harcèlement scolaire pendant 3 mois et j'étais seul pendant 2 semaines. Plus personne ne me parlait dans le collège, et les séquelles que j'ai eues sont la perte totale d'une confiance en moi alors que j'en avais pas beaucoup. Je me suis retrouvé seul sans amis à enchaîner les heures de CDI où j'allais me réfugier. Il y a des rumeurs sur moi fausses pour pas changer qui ont circulé très vite. Mes parents ont dû m'aider tellement j'étais mal. Mais cette mauvaise période m'a permis de me rendre compte que de vraies personnes étaient là auxquelles je peux faire confiance. Je peux m'appuyer sur ces personnes géniales si jamais j'en ressens le besoin comparé à la mauvaise personne qui m'a détruit et à mon ancien groupe d'amis.
Un de mes meilleurs souvenirs au collège, et plusieurs, est celui d'il n'y a pas si longtemps. C'était il y a quelques semaines quand j'ai découvert que j'ai eu la meilleure note de tout le collège en maths au brevet blanc. Je rappelle, l'épreuve est sur 100 et j'ai eu 97. Et aussi, il n'y a pas très longtemps, on a eu l'oral blanc et j'ai eu 100 en note approximative. Et aussi, bien évidemment, le voyage en Espagne qui a été incroyable, même si c'était trop court. Heureusement, on a eu le beau temps, même un jour, on a eu 32 degrés.
L'un de mes meilleurs souvenirs au collège, c'est mon passage à The Host College. J'ai chanté avec ma meilleure amie Rachel cette année. Au premier tour, on a chanté Derrière le brouillard de Louane et Grand Corps Malade. Et au second, on a fait One Last Time d'Ariana Grande et Kanye Jirak. J'ai préféré la première. Un autre souvenir que je n'oublierai pas de sitôt, le voyage en Espagne à Valence précisément, c'était incroyable.
Avant de partir du collège, j'ai vraiment envie de enfin tout dire à ma soi-disant amie que je sais tout ce qu'elle fait dans mon dos, je pense que ça me libérera d'un poids énorme, ce qui est déjà fait depuis quelque temps, et de tout recommencer à zéro et me faire de nouveaux amis au lycée.
Avant de partir du collège, j'ai envie de réussir mon diplôme du brevet et de réussir le concert de chorale vu que j'en fais partie. Par contre, j'ai pas envie de faire le cross, il a été annulé à cause de la pluie, j'espère qu'il ne sera pas reporté.
Nous, on vous dit au revoir et adieu, on va préparer notre oral qui est le 1er et 2 juillet, et notre vrai oral le 5 juin. Merci de m'avoir suivi pendant ces 3 ans.
Merci de m'avoir écouté pendant ces 4 longues années, j'espère que vous continuez à écouter cette radio même si je suis pas là. Au revoir et peut-être à l'année prochaine sur la radio du lycée.
C'est la fin de notre dernière émission. Nous avons passé une trop bonne journée ici dans les locaux de Radio Escapade. Merci à toute l'équipe de la radio et de nous avoir accueillis. Merci à Fabien, animateur, pour tous ses bons conseils dans la préparation de nos émissions. Merci à Laurent et Madame Rouvière pour cette belle année au club radio. Et merci à Monsieur Delorme de permettre nos sorties scolaires et de nous avoir accompagnés à vélo.
Nous vous remercions de vous avoir écoutés. Je voulais aussi, du coup, vous remercier de nous avoir écoutés, du coup. Et aussi, je voudrais remercier tous les animateurs qui ont été là pendant ces 3 émissions, car c'était super, vraiment. On a tous bien travaillé. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. Et à l'année prochaine!
Le collège de Kuta. Des interviews, des actus,
de la musique,
des sciences,
des reportages.
Vous écoutez On te choque!